Chapitre 37. La longue traque. Tenant les brides des trois chevaux, Ninevé sonda l'obscurité comme si elle pouvait repérer l'Aes Sedai et le champion. Les arbres qui entouraient la sage dame, combinés aux ténèbres, faisaient un écran parfait pour dissimuler les activités de Moiraine et de l'âne. Ne daignant pas donner d'explication, le champion s'était contenté de souffler à la sage dame de surveiller les chevaux. Puis il avait emboîté le pas à Moiraine, plantant là Ninevé comme si elle était un vulgaire palefrenier. Regardant les chevaux, elle soupira d'agacement. Mandarbe se fondait dans la nuit presque aussi parfaitement que la cape de son maître. Si ce fier destrier s'était laissé approcher par la sage dame, c'était uniquement parce que l'âne en personne lui avait confié sa bride. Pour l'heure, les talons étaient calmes, mais Ninevé se souvenait très bien de la façon dont il avait montré les dents lorsqu'elle avait voulu saisir la bride sans passer par l'âne. Exprimée dans un silence total, la menace du cheval avait paru encore plus dangereuse. Avec un dernier coup d'œil pour le destrier, Ninevé se tourna dans la direction où étaient partis ses deux compagnons de voyage. Alors qu'elle flattait l'encolure de sa monture, elle faillit crier quand Aldièble glissa ses naseaux crème sous la main. Se ressaisissant, la sage-dame donna également à la jument son content de caresses. « Sous prétexte que ta maîtresse est un glaçon, je ne vais quand même pas te battre froid. »«
Mais qu'est-ce qu'il fiche, bon sang ?»
Après avoir quitté Pont-Blanc, les trois cavaliers avaient traversé une série de villages dont la banalité avait quelque chose d'extraordinaire à force. Des bourgs qui ne semblaient pas appartenir à un monde grouillant de trolloques et de blafards. Les voyageurs avaient suivi la route de Kemling pendant un moment. Puis Moiraine s'était arrêtée et, sans descendre de selle, elle avait regardé vers l'est, comme s'il lui était possible de voir la grande cité à des lieues de là et de distinguer également ce qui les attendait là-bas.
« La routisse comme elle l'entend !»
avait-elle soupiré.
« Mais je ne peux croire qu'elle ait décidé de mettre un point final à l'espoir. Je dois d'abord m'occuper de ce dont je peux être certaine. Pour le reste, laissons la roue en décider. »
Sur ces mots, elle avait orienté sa jument vers le nord, quittant la route pour s'enfoncer dans la forêt. Le garçon qui n'avait pas perdu son talisman était parti par là. Bien entendu, l'âne avait suivi son Aes Sedai. Ninevé avait longuement regardé la route de Kemlin qu'elle ne suivrait donc pas jusqu'au bout. Quelques chariots et des voyageurs à pied se dirigeaient vers la grande ville. Parmi ces derniers, certains avaient l'honnêteté de reconnaître qu'ils voulaient voir le faux dragon. Mais ils étaient rares. La plupart, surtout ceux qui avaient traversé Pont-Blanc, affirmaient que ce n'était pas le but de leur voyage. À Pont-Blanc, justement, Ninevé avait commencé à croire un peu plus Moiraine. Avec des limites, bien sûr, mais quand même davantage qu'avant. Et cette évolution n'avait rien de rassurant. Quand elle s'était enfin décidée à les suivre, l'Aes Sedai et le champion étaient pratiquement hors de vue. Pour les rattraper, elle avait dû forcer l'allure. L'âne s'était retourné souvent, lui faisant signe de les rejoindre, mais il ne s'était jamais laissé distancer par Moiraine, qui gardait perpétuellement les yeux rivés devant elle. Un soir, quelques jours après le changement de direction, la piste invisible s'était brusquement interrompue. Se relevant soudain, Moiraine avait cessé de s'intéresser à la bouilloire qui chauffait sur le feu de camp.
« Je ne sens plus rien »,
avait-elle soufflé.
« Le garçon est... »
avait commencé Ninevé, incapable d'aller jusqu'au bout de sa question.
« Par la lumière, je ne sais même pas duquel il s'agit. » « Non, il n'est pas mort, »
avait répondu l'Aes Sedai.
« Mais il n'a plus la pièce. »
Se rasseyant, elle avait retiré la bouilloire du feu et jeté dedans une poignée de feuilles.
« Demain, nous continuerons dans la même direction. Quand je serai assez près, je n'aurai plus besoin du talisman pour le localiser. »
Alors que le feu agonisait, l'âne s'était enroulé dans sa couverture pour dormir. Ninevé n'était pas parvenue à trouver le sommeil. Regardant Moiraine, elle avait vu qu'il en allait de même pour elle. Alors que les ultimes braises du feu ne rougeoyaient plus depuis longtemps, Moiraine avait ouvert les yeux, les rivant sur Ninevé.
« Sage dame, il a récupéré sa pièce. Tout ira bien. »
Sur ces mots, l'Aes Sedai s'était endormie comme une masse. Ninevé avait eu du mal à l'imiter. Malgré tous ses efforts, elle n'avait pas pu s'empêcher d'imaginer le pire.
Tout ira bien.
Après Pont-Blanc, y croire n'était pas facile du tout. Sursautant, la sage-dame émergea de sa rêverie et revint au présent. Une main lui serrait le bras. Ravalant le cri qui montait de sa gorge, elle lança la main vers le couteau accroché à sa ceinture. Alors que ses doigts se refermaient sur le manche, elle s'avisa que la main appartenait à l'âne. Le champion avait abaissé son capuchon. Sa cape de caméléon se mariant parfaitement à la nuit, on aurait juré que son visage flottait tout seul dans l'obscurité. Et la main qui serrait le bras de Ninevé paraissait jaillir de nulle part. Certaine d'avoir droit à un sermon sur la façon dont elle s'était laissée surprendre, la sage-dame se raidit. Mais l'âne se détourna d'elle pour aller fouiller dans ses sacoches de sel. « On te demande, » dit-il, avant de s'agenouiller pour entraver les jambes de son étalon. Dès qu'il se fut occupé des trois montures, il se redressa, prit Ninevé par la main et s'enfonça avec elle dans le noir. Avec ses cheveux ailes de corbeau, il passait parfaitement inaperçu, d'autant plus qu'il réussissait à faire encore moins de bruit que sa compagne. À contre-cœur, la sage-dame dut admettre qu'elle n'aurait jamais pu le suivre s'il ne l'avait pas tenu par la main. Mais s'il refusait de la lâcher, pourrait-elle se dégager? Elle en doutait, tant sa poigne était puissante. Au sommet d'une butte, l'âne s'agenouilla et tira sur le bras de Ninevé afin qu'elle fasse comme lui. Après un moment, la sage-dame s'aperçut que Moiraine était là aussi, parfaitement immobile dans sa cape noire. L'âne désigna le pied de la butte, où s'étendait une grande clairière. Ninevé plissa les yeux, sonda la nuit, et comprit soudain. Les formes plus pâles étaient des tentes alignées par rangées régulières. Un camp endormi. « Des capes blanches, » murmura l'âne. « Au moins 200 hommes, peut-être plus. » « Il y a un point d'eau au pied de cette butte. Et le garçon que nous cherchons est là. »
« Dans le camp ?»
demanda Ninevé. Elle devina que le champion acquiesçait. « Au milieu, oui. Moiraine m'a montré exactement où, et j'ai pu approcher assez pour voir qu'il est sous bonne garde. »
« Prisonnier ?»
s'étonna la sage-dame.
« Pourquoi donc ?»«
Je n'en sais rien. Normalement, les fils de la lumière ne devraient pas s'intéresser à un garçon de la campagne. Sauf s'ils ont une très bonne raison de le soupçonner. La lumière m'en soit témoin. Il ne faut pas grand-chose pour éveiller leurs suspicions. Mais ça m'inquiète quand même.
« Comment vas-tu faire pour le libérer ?»
Quand l'âne tourna la tête vers elle, Ninevé s'avisa qu'elle le croyait capable de pénétrer dans le camp au nez et à la barbe de 200 hommes et d'en revenir avec le jeune prisonnier.
« C'est un champion, pas vrai? Certaines histoires doivent bien être authentiques. »
La sage-dame s'attendait à une réponse ironique, mais l'âne ne se départit pas de son calme coutumier. « Je peux le tirer de là, mais je doute qu'il soit en état de passer inaperçu. Si on nous repère, nous risquons de nous retrouver avec 200 capes blanches aux trousses. » Et 3 chevaux pour 4 cavaliers. À moins que les filles aient mieux à faire que nous poursuivre. Tu veux bien courir un risque?
Pour un garçon de Champ des Mondes? Bien entendu. Quel genre de risque?
Le champion désigna de nouveau quelque chose. Cette fois, Ninevé ne vit rien du tout dans le noir. C'est la corde où sont attachés leurs chevaux. Elle est tenue par des piquets plantés à intervalles réguliers. Si on coupe la corde de ci, de là, les montures partiront dans tous les sens au moment où Moiraine créera une diversion. Occupés à poursuivre leurs propres montures, les fils de la lumière ne pourront pas s'intéresser à nous. De ce côté du camp, à l'extérieur par rapport à la corde, il y a 2 sentinelles. Mais si tu es aussi doué que je le crois, et même juste la moitié, elles ne te verront pas. Ninevé eut quelque peine à déglutir. Traquer des lapins, d'accord. Et défier des gardes armés jusqu'aux dents.
Ainsi, il pense que je suis doué? Je suis prête à prendre le risque, l'âne.
Le champion acquiesça de nouveau, comme s'il n'avait jamais douté de la réponse. Autre chose. Il y a des loups dans le coin ce soir. J'en ai vu deux. Ce qui laisse supposer qu'il y en a beaucoup plus que ça. L'âne marqua une pause, comme s'il était intrigué. Le genre de réaction qu'on n'attendait pas de lui. On aurait dit qu'il voulait que je les voie. De toute façon, ils ne t'ennuieront pas. En règle générale, ils se tiennent loin des humains.
Merci du renseignement. C'est une information précieuse pour quelqu'un qui a grandi avec des bergers.
L'âne eut un grognement, sa façon d'encaisser le coup, et Ninevé ne put s'empêcher de sourire.
On passe à l'action, annonça le champion.
Le sourire de la sage dame se volatilisa tandis qu'elle étudiait le camp. 200 guerriers armés de lances et d'épées. Avant de changer d'avis, Ninevé dégaina son couteau et avança. Mais Moiraine la retint par le bras, sa poigne presque aussi ferme que celle de l'âne.
Sois prudente, souffla la Aes Sedai. Et lorsque tu auras fini, reviens aussi vite que possible. Tu es également une part de la trame. Si le destin du monde n'était pas en jeu, tu ne risquerais pas davantage ta vie que celle des autres.
Lorsque Moiraine l'eut lâché, Ninevé se frotta discrètement le bras. Pas question de montrer qu'elle avait mal. Mais l'Aes Sedai s'était déjà détournée, sondant de nouveau le camp. Quant au champion, il s'était volatilisé sans que la sage-dame entende un bruit.
Que la lumière l'aveugle, ce maudit héros.
Remontant sa jupe, Ninevé l'attacha pour avoir les jambes libres, puis elle s'enfonça dans la nuit. Après quelques pas bien trop rapides, les brindilles craquant sous ses chaussures, elle ralentit le rythme, soulagée qu'il n'y ait personne pour la voir s'empourprer. L'idée était de ne pas faire de bruit, et elle n'avait aucune raison de vouloir devancer le champion. Après tout, ce n'était pas une compétition contre lui.
Sans blague ?
Chassant cette pensée, la sage-dame continua sa progression dans la forêt obscure. En soi, ce n'était pas très difficile, car la lumière de la lune suffisait amplement à une personne formée par un génie comme son père. De plus, le sol en pente douce était facile à négocier. Mais les arbres dénudés rappelaient sans cesse à Ninevé qu'il ne s'agissait plus d'un jeu d'enfant, comme à l'époque de sa jeunesse à Champ des Mondes, dès que le printemps le permettait. Pour ne rien arranger, les gémissements du vent ressemblaient presque à s'y méprendre à la sonnerie des cortreloques. Et maintenant qu'elle était seule, il lui revint à l'esprit que les loups de Deux Rivières, qui fuyaient effectivement les humains, n'avaient pas été fidèles à leurs habitudes durant l'hiver. Lorsqu'elle sentit une odeur musquée d'équidée, Ninevé eut un soupir de soulagement. Osant à peine respirer, elle se mit à plat ventre et avança contre le vent en direction des chevaux. Elle aperçut les deux sentinelles grâce à leurs capes blanches qui ondulaient au vent et brillaient presque sous les rayons de la lune. Porter des torches n'aurait pas plus trahi les deux types tant ils étaient visibles. Ninevé se plaqua au sol et ne bougea plus. À une dizaine de pas d'elle, les deux hommes venaient de s'arrêter l'un en face de l'autre. Juste derrière eux, on distinguait des silhouettes qui devaient être des chevaux. De plus, l'odeur d'écurie était très forte.
Tout est tranquille,
annonça un des guerriers.
La lumière nous éclaire et nous protège des ténèbres.
Tout est tranquille aussi de mon côté,
répondit l'autre cap blanche.
La lumière nous éclaire et nous protège des ténèbres.
Sur ces mots, les deux sentinelles reprirent leur ronde. Ninevé attendit, comptant les secondes, tandis qu'ils parcouraient deux fois leur circuit. À chaque cycle, il leur fallut exactement le même temps, et ils répétèrent la même formule rituelle chaque fois qu'ils se croisèrent. Aurait-il repéré l'intruse si elle avait été debout? Rien n'était moins sûr quand on s'acquittait de sa mission si distraitement. Alors que les capes blanches disparaissaient de nouveau dans la nuit, la sage-dame se releva à demi et, restant accroupie, courut vers les chevaux. Très vite, elle ralentit le pas pour ne pas affoler les bêtes. Les sentinelles ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez, ça semblait évident, mais si les chevaux renâclaient, ça attirerait quand même leur attention. Une fois assez près, Nineveh vit qu'il y avait en fait plusieurs cordes tenues par des piquets. Les équidés soufflaient dans leur sommeil, certains frappant une ou deux fois le sol de leurs sabots, sans doute parce qu'ils rêvaient. Juste avant de trébucher dessus, la sage-dame s'immobilisa devant le dernier piquet d'une rangée. Tétanisée, elle vit briller les yeux d'un cheval qui venait de lever la tête, sans doute alerté par le bruit. La bride de l'animal formait une boucle assez peu serrée autour de l'épaisse corde qui courait de piquet en piquet.
Un seul hennissement et je suis fichu.
Sentant son cœur battre la chamade, la sage-dame se demanda s'il ne faisait pas assez de boucan pour que les sentinelles l'entendent. Sans quitter le cheval curieux du regard, elle commença à couper la corde, la touchant parfois du bout des doigts pour savoir où elle en était. Le cheval releva un peu la tête.
Un seul hennissement.
Il ne restait plus que quelques fibres à couper. Très lentement, Nineveh se dirigea vers la rangée suivante. Tournant la tête, elle constata que le cheval la suivait toujours des yeux. Et il en fut ainsi jusqu'à ce qu'elle soit trop loin pour voir briller dans la nuit les globes oculaires de l'animal. S'ils étaient tous comme lui, elle ne tarderait pas à se faire repérer. Mais les chevaux suivants dormaient, et aucun ne broncha, même quand la sage-dame, s'étant entaillée un pouce, ne put étouffer un cri de douleur. Alors qu'elle suçait la coupure, elle regarda derrière elle, mais ne vit rien. Avançant contre le vent, elle ne pouvait plus entendre le dialogue rituel des deux gardes, chaque fois qu'ils se croisaient. En revanche, selon l'endroit où ils étaient, eux pouvaient l'avoir entendu. Et s'ils venaient voir ce qui se passait, elle ne capterait pas un son avant qu'il lui tombe dessus.
Il est temps de repartir. Avec 4 chevaux sur 5 dans la nature, les cas blanches ne poursuivront personne.
Malgré ce raisonnement, Nineveh resta où elle était. Quand elle lui dirait qu'elle n'était pas allée jusqu'au bout de sa mission, l'âne ne l'accuserait pas de désertion. Elle avait raison sur toute la ligne, et il n'aurait pas été juste d'exiger davantage d'elle. Après tout, elle était une sage dame, pas un grand guerrier qui pouvait se rendre invisible. Non, il n'y aurait pas d'accusation. Simplement de la compassion pour un être inférieur. Serrant les dents, Nineveh avança vers la 5e et dernière rangée de piquets. Le premier cheval attaché à la corde était Bella.
Impossible de s'y tromper.
C'était bien la jument à long poil, et la trouver dans ce camp ne pouvait pas être une coïncidence. Une vague de soulagement déferlant en elle, la jeune femme sentit qu'elle tremblait comme une feuille. Dans cet état, elle osait à peine s'attaquer au dernier piquet, mais son esprit, en revanche, était clair comme les eaux de la cascade à vin. Egwene était prisonnière en compagnie d'un des 3 garçons. S'ils étaient obligés de fuir avec 2 cavaliers par cheval, quelques fils de la lumière finiraient par les rattraper, et il y aurait inévitablement des pertes parmi les fugitifs. C'était aussi sûr que si la sage-dame l'avait entendue dans le vent. Mais comment pouvait-elle avoir une telle prescience des choses? Ça n'avait rien à voir avec le temps, les récoltes ou les maladies.
Pourquoi Moiraine m'a-t-elle dit que je peux canaliser le pouvoir? Elle aurait mieux fait de me ficher la paix.
Bizarrement, l'angoisse liée à ses pensées apaisa les tremblements de Nineveh. D'une main sûre, comme si elle hachait des herbes chez elle, elle entama la corde afin qu'elle se brise à la première traction. Puis elle rengaina son couteau et entreprit de dénouer la bride de Bella. Réveillée en sursaut, la jument secoua la tête, mais quelques caresses sur les naseaux et des mots de réconfort soufflés à l'oreille la calmèrent très vite. D'autres chevaux de cette rangée, réveillés par le bruit, regardaient l'intruse. Se souvenant des réticences de Mandarbe, Nineveh tendit une main hésitante vers la bride suivante. Mais ce cheval-là ne parut pas effrayé par une main étrangère. Bien au contraire, il semblait vouloir être cajolé comme Bella. Quand elle eut fini, la sage-dame enroula la bride du cheval autour de son poignet et garda celle de Bella dans son poing serré. À 30 pas de là, au milieu des tentes, des hommes allaient et venaient. S'ils remarquaient l'agitation des chevaux, Moiraine ne devait pas attendre son retour. Quelle que soit la diversion prévue, il fallait commencer dès maintenant.
Lumière, fais qu'elle agisse avant qu'il soit trop tard.
Un éclair zébra soudain le ciel, illuminant le camp. Puis le tonnerre assourdit Ninévé à l'instant où un trident de foudre percuta le sol à quelques pas des chevaux, soulevant un geyser de pierres et de terre. Dans un vacarme de fin du monde, les chevaux ruèrent ou se cabrèrent. Soumises à une traction bien trop forte, les cordes presque coupées cédèrent, libérant les montures. Avant que la lueur du premier se soit dissipée, un deuxième éclair déchira le firmament. Trop occupée, Ninévé n'eut pas le temps d'exulter de joie. Bella ayant fait un écart sur un côté tandis que l'autre cheval choisissait la direction opposée, la cavalière eut l'impression qu'on tentait de lui détacher les bras du torse. Une longue minute durant, ses pieds ne touchant plus le sol, elle resta en suspension entre les deux chevaux, ses cris couverts par les roulements de tonnerre. Dans le ciel, les éclairs se déchaînaient, semant la panique dans le camp. Effrayés, les deux chevaux reculèrent en même temps, laissant retomber au sol la sage dame. Alors qu'elle aurait voulu s'agenouiller et masser ses épaules douloureuses, elle dut éviter les sabots qui auraient très bien pu lui fracasser le crâne. Dans la folie ambiante, même la paisible Bella devenait mortellement dangereuse. Par miracle, Ninévé parvint à se redresser, à lever les bras, à attraper la crinière de la jument et à se hisser sur son dos. L'autre bride enroulée autour de son poignet lui entaillait la chair, mais c'était un bien maigre prix à payer. Soudain, une longue ombre grise passa à côté de la sage dame en grognant. La créature sembla ignorer l'humaine et ses deux chevaux, mais des mâchoires claquaient tout autour des équidés affolés. Une deuxième ombre grise suivit de très peu la première. Ninévé voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge.
« Des loups ! Lumière, viens à mon secours ! Moiraille n'a-t-elle perdu la tête ?»
Avant même qu'elle l'ait talonnée, Bella partit au galop et l'autre cheval la suivit sans rechigner. Tant qu'il pourrait galoper, la destination n'importait pas, les deux chevaux tenteraient d'échapper au feu céleste qui dévastait impitoyablement la nuit.